RLP.
Radio libre en Périgord.
L'alternative, c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. C'est devenir un gros connard. Fermé à tout et moins de rien. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'alternative, nouveau format où on va discuter des problématiques de territoire, mais surtout des solutions qui sont proposées. On a plein de gens, ça grouille d'idées, ça grouille de bonnes pensées.
RLP.
On va rentrer tranquillement par des événements qui se passent dans l'agriculture et dans l'élevage en particulier. On a trois invités aujourd'hui. Serge, bonjour.
Bonjour.
Amandine.
Bonjour.
Et Virginie.
Bonjour.
Donc, trois invités, je vais leur laisser deux minutes pour se présenter, dire ce qu'ils veulent d'eux. Serge, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter?
Alors, je suis Serge Deschamps, je réside sur la commune proche de Thiviers, sur Eizerac. Je suis éleveur de bovins en conduite biologique, donc je fais de la vache allaitante. Je maintiens une agriculture paysanne tout en respectant la biodiversité, le bien-être animal, le bien-être de tout le monde, du consommateur et tout. Voilà.
D'accord. Amandine.
Eh bien bonjour, moi donc je m'appelle Amandine Béchade, donc je suis sur la commune de Saint-Barthélemy-de-Bellegarde, pas loin de Montpont-Ménestérol. Et je suis éleveuse paysanne, voilà, et j'avais un troupeau de vaches allaitantes en production veau sous la mer, qui a été abattu il y a 4 semaines de ça.
Virginie.
Donc moi je suis Virginie Zambelli, je suis agente territoriale, et pourquoi je suis ici? J'ai passé mon brevet professionnel responsable d'exploitation agricole en 2002 à Coulommiers-Chamiers. Et je suis très sensible au sujet de l'autonomie alimentaire, de l'agriculture paysanne, des fermes à taille humaine. Je suis aussi élue sur la communauté de communes Île-Vauvézère et dans les commissions telles que le plan local d'urbanisme intercommunal, les commissions environnement, agriculture. Et je me suis bien demandé ce que je faisais dans cette histoire d'élevage des vaches parce que je suis végétarienne. Et en effet, j'ai beaucoup discuté avec Serge et les agriculteurs qui exploitent des animaux. Et je me suis tout à fait retrouvée aux côtés de Serge et je vous expliquerai pourquoi.
D'accord. Alors, je vous ai invité parce qu'il y a eu plusieurs problématiques, notamment dues à une maladie qui s'appelle la tuberculose sur notre territoire. Et des vaches, bah, comme tu l'as dit, Amandine, ont été abattues. Et je suis parti, moi, d'une histoire qu'on m'a racontée sur la vie de Serge. Alors, je ne sais pas si l'émission peut l'appeler la vie de Serge, mais en tout cas, il y a eu un gros mouvement de personnes autour de la situation des vaches de Serge. Est-ce que, Serge, en quelques mots, tu peux nous donner un historique, nous raconter c'est quoi la problématique que tu as vécue?
Alors, en mars 2024, suite à un cas de tuberculose bovine dans le secteur, on m'a demandé de réaliser une prophylaxie sur mon troupeau. Forcément, elle devait être chez moi, d'après les services sanitaires, puisqu'il y a eu un cas très proche. Et donc, voilà, on fait donc des analyses intradermaux. Ensuite, des analyses interférons par prise de sang et analysées en laboratoire. Par la suite, ils ont découvert que deux bêtes avaient réagi seulement en interférons, pas en intradermaux. En intradermaux comparative, donc des tests aviaires et tuberculine bovine ont été faits et rien n'a apparu sur ces tests. Mais en interférons, ils ont retrouvé deux bêtes
d'accord.
Qui était positif. Ensuite, c'est tout un protocole qui est mis en place. Et c'était très long, puisque j'ai dû résister à l'abattage total qui a finalement eu lieu 16 mois plus tard.
Aujourd'hui, tu as toutes tes bêtes qui ont été abattues.
Voilà.
Combien au départ?
Il y avait 38 bêtes.
Et les 38 ont été abattues?
Oui, plus les nouveaux-nés, donc c'est 45 bêtes qui ont été abattues à l'heure actuelle.
D'accord. Et deux avaient été signalés porteurs de tuberculose.
C'est ça. Donc rien que pour ça, ils ont décidé de l'abattage total de mon troupeau.
Alors qu'on comprenne, de ton point de vue, pourquoi ils ont décidé d'abattre tout le troupeau alors qu'il n'y avait que deux bêtes qui étaient touchées. Est-ce que la tuberculose, c'est transmissible? De quelle manière?
Oui, donc transmissible à l'être humain, mais aussi transmissible aux autres bêtes. Donc, ils ne font pas de détails, quoi.
Heureusement qu'ils n'ont pas fait pareil pour le Covid, hein.
Oui, c'est cela.
On ne serait pas là aujourd'hui. Hein.
C'est ce qu'on se dit tous.
Ok. On va revenir sur l'historique. Juste, je vais demander à Amandine, est-ce qu'on est dans le même cas de figure? C'est un autre élevage qui a été touché, signalé, et on t'a demandé de faire des tests?
Non, pas du tout.
Non.
En fait, nous, c'est suite à la campagne de prophylaxie qu'on a fait au mois de janvier. En fait, on a 14 bovins qui ont réagi. Alors, c'était très étonnant parce que d'habitude, les années précédentes, on n'avait aucun bovin qui réagissait et à la tube aviaire et à la tube bovine. Et là, cette année, on a eu 14 bovins qui ont réagi, soi-disant, à la tube bovine. Alors, je dis bien soi-disant parce que, au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas les résultats. Un mois plus tard, les animaux ont été abattus. J'ai toujours aucun résultat sur ces animaux-là.
Tu veux dire qu'ils ont été abattus sans le résultat?
Pour l'instant, moi, j'ai toujours pas de résultat. Donc, sur les 14 bovins, il y en a un qui était parti. Donc, j'ai une de mes vaches de 22 ans qui est décédée juste après la prophylaxie, enfin, la campagne de prophylaxie. Donc, les services vétérinaires voulaient absolument qu'on fasse partir les 13 autres bovins. Donc, on s'y est opposé. Donc, ils nous ont dit, cette vache-là, vous nous l'amenez au laboratoire de Coulommiers.
Mais elle est décédée de vieillesse ou elle est
Elle est décédée plus de vieillesse, mais je pense que la piqûre de la prophylaxie ne l'a pas aidée, je pense. Et donc, du coup, on l'a amenée au laboratoire d'analyse, puisqu'on voulait pas, on s'est obstiné à ne pas vouloir faire partir les bovins, parce que moi, j'avais des vaches qui étaient gestantes, donc je voyais pas pourquoi je ferais partir des vaches pleines. Et donc, ils ont demandé à ce qu'on l'amène donc, au labo en tracteur et en benne. On l'a amenée au labo de Coulommiers-Chamiers. Et donc, aux analyses, on décelait la mycobactérie.
D'accord.
Alors, il faut savoir quand même que le monsieur qui avait fait donc, l'autopsie du bovin m'avait envoyé un mail en me disant que, voilà, qu'il n'y avait pas de lésion similaire à de la tuberculose, mais qu'il fallait attendre des résultats pour analyse. Et je ne sais plus, 48 heures ou 72 heures après, enfin, les services vétérinaires m'ont appelé pour me dire voilà, la vache, elle est positive à la PCR. Et c'est parti en analyse à l'ANSES à Paris, à Maison Alfort. Et du coup, c'est revenu également positif.
D'accord. Oui. Ma question, elle est sur le point de départ. En fait, il faut expliquer aux éditeurs et aux auditrices que vous avez le devoir en début d'année de faire des tests à vos bêtes. Je mets ça en avant parce que dans le système de gestion, personnellement, de l'extérieur, je trouve ça correct qu'on demande d'avoir des analyses obligatoires par année.
Mais nous, ce qu'on demande, c'est plus de transparence au niveau des analyses, par contre.
Oui.
Parce qu'au niveau des analyses, il faut savoir que nous, on a vendu quelques bovins entre-temps que le troupeau parte pour avoir des analyses complémentaires. On a quand même été à l'abattoir où on a quand même les services vétérinaires qui nous ont certifié qu'il n'y avait aucune lésion sur les carcasses.
Qu'il n'y avait rien.
Donc voilà, et après, quand vous avez les services vétérinaires qui vous appellent 3 jours plus tard pour vous dire, les vaches sont positives à la tuberculose, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions en tant qu'éleveur.
Ah ouais, ouais. Ok. Alors, la suite de cette histoire... Tu as fait les tests, il y a des retours de tests qui ont été positifs sur une bête, mais les autres, tu avais les résultats ou pas?
Ah, tout à fait, tout était négatif sur toutes les autres.
Et qu'est-ce qui a fait qu'au final, ils t'abattent tout le troupeau?
Par mesure de prévention, et parce qu'il y a un pourcentage pour passer à l'abattage total ou passer à l'abattage sélectif.
D'accord.
Et dans mon cas, je pouvais prétendre à l'abattage sélectif. Et donc là, j'en ai fait la demande, donc ça m'a été refusé.
C'était quoi les raisons?
Ben déjà, ils ont fait un inventaire sur ma ferme. Ils ont dit que mes vaches passaient dans les sous-bois pour s'abriter, donc pour passer d'une parcelle à l'autre. Ça, c'était à exclure. Que les vaches buvaient dans un petit cours d'eau, c'était à exclure. Qu'il y avait un tas de fumier... devant Mastabu, ça c'était à exclure parce que ça attirait la faune sauvage.
En fait, tout ce que l'animal peut vivre en pleine nature, ouais. Je réagis par rapport à l'accès à la rivière par exemple, ou le sous-bois, la solution c'était de faire un Truman Show de tes vaches ou,
oui, tout à fait.
Virginie.
Bon, ce qui m'a interpellée, c'est vrai que des vaches malades, je me suis dit, il y a une ou deux vaches malades, on les tue? Alors que pour moi, la priorité, c'est un animal, un être vivant. On met tout en place pour d'abord le soigner. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces vaches, elles n'en meurent pas. Et les gens vont le retrouver dans les étals, ça va être racheté par les bouchers. Et les gens vont consommer, ceux qui mangent des animaux, vont consommer ces vaches ou ces veaux. Donc là, c'est toute cette histoire qui m'a vraiment interpellée. Je me dis, ah bon, Elles sont malades, mais les gens peuvent quand même la consommer.
Ça synthétise vraiment la bêtise de l'organisation.
Voilà, je me suis dit là, voilà, moi personnellement, en tant qu'élue et citoyenne et consommatrice, là j'ai envie d'étudier le dossier, de gratter un petit peu, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, ça m'interpelle. Et ces écosystèmes, ce qui m'a rapprochée de Serge et de... Quelque part, c'est devenu un combat, hein, parce qu'on a quand même créé cette VAD, cette zone de vaches à défendre, à Zrac, chez Serge. C'est que il y a toute cette biodiversité. Ces vaches, il les a récupérées de ça. Ça a été une transmission de sa mère. C'est des vaches qui étaient dans cet écosystème-là depuis plus de 60 ans, qui vivaient en lien avec les blaireaux, etc. On sait chez lui qu'il y a un blaireau, qu'il y a un terrier de blaireau ancestral. Et les blaireaux, justement, voilà, il y a un peu polémique parce que le blaireau qui passe la nuit dans les champs va peut-être être contaminé par la tuberculose bovine. Du coup, le blaireau va peut-être redonner. Mais il faut savoir que ça fait des dizaines, des centaines de milliers d'années que les blaireaux existent, que ça fait 60 ans que les vaches de Serge, on pourrait presque parler, voilà, d'ailleurs on en parle entre nous, d'un patrimoine vivant, d'une génétique de vaches rustiques. C'est une agriculture paysanne, c'est un élevage de plein air. Alors après, c'est ce que je demande aux élus, aux citoyens, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut ne plus voir de vaches, plus voir de prés, des fermes-usines ? Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre, Virginie a dit ça, les végétariennes. On est tous ensemble, en fait. Et c'est ça aussi le message que je veux donner. Oui, je suis végétarienne, je suis aussi élue. On a créé la Maison de la Forêt et de l'Environnement à Saint-Germain-des-Prés. C'est pour travailler ensemble.
Oui, c'est vrai que on n'a pas insisté là-dessus, mais tu es élue sur une petite commune.
C'est Marcel d'Albaret.
Donc, à ce titre-là, toi, tu as un regard, en fait, sur ce qui se passe sur la vie paysanne chez toi. Tu as déjà une idée de ce que c'est que l'élevage, même si toi, tu ne manges pas de viande.
Tout à fait.
Mais de ton point de vue, quand tu soulèves ça, est-ce que, de ton point de vue, il y a une volonté, ou politique, ou idéologique, de ne plus avoir ce type de ferme ? Ou est-ce que c'est par méconnaissance des sujets ? Comment on arrive au fait de ne pas vouloir ou d'avoir des normes qui bloquent la nature et la mise en place d'un écosystème ?
Ça me semble... Non, je dirais pas. Les élus sont très sensibles et proches de leurs agriculteurs, mais il y a une méconnaissance, en effet. Il y a tellement de sujets à gérer aujourd'hui au niveau des mairies qu'ils se sentent, je pense, dépassés. Il y a, comment dire, une loi qui a été établie des quotas au niveau de l'Europe, qui est bien plus haute, qui dit, voilà, la France, aujourd'hui, doit être indemne de tuberculose bovine. Si vous voulez continuer certains types d'agriculture à exporter des animaux, il va falloir, ils ont décidé ça comme ça, qu'il n'y ait plus de tuberculose bovine en France. Donc la Dordogne et d'autres départements, on a été ciblés. Alors qu'il faut savoir que moi, j'ai parlé avec une ancienne qui avait plus de 95 ans, qui avait aussi des vaches et qui m'a dit « Mais ma pauvre, on l'a toujours connue, la tuberculose bovine chez nous. » Et on faisait avec. Cette dame, elle est décédée à 95 années. Et ce que met la préfecture aujourd'hui en avant dans tous les courriers qu'a pu recevoir Serge, c'est « Attention, moi je fais ça pour protéger le cheptel bovin de Dordogne et la santé humaine. » Enfin, nous sommes renseignés, nous avons eu des laborantins, nous avons été en contact avec des laborantins. Zéro cas de tuberculose bovine humaine.
Avant de passer, de faire une petite pause musicale, une petite question. Quand tu dis... cette dame, elle vivait avec la tuberculose. Mais est-ce que justement, les normes, est-ce que c'était bon de vivre avec ça ? Est-ce que c'est pas parce qu'on vivait avec avant que c'était bon avant ? Est-ce que l'Europe n'a pas raison aussi de bloquer... Je me fais l'avocat du diable, mais il faut quand même se poser la question. Il y a une maladie, est-ce qu'on la laisse en place parce qu'on considère qu'elle n'est pas grave, ou est-ce qu'on la bloque parce que ça peut avoir une incidence, une conséquence sur les consommateurs?
J'aurais plutôt tendance à redire ce que je disais tout à l'heure. Soignons. Soignons. Est-ce que parce que nous, on est malade, ou si on va chercher la moindre petite bactérie, on est bourré de bactéries. Ouais. Et vous pouvez aller voir ce magnifique film documentaire de Marie-Monique Robin, « La fabrique des pandémies et vive les microbes ». C'est au contraire, c'est grâce à ça qu'on fait notre immunité, qu'on se renforce, etc. Et on ne va pas nous tuer, en tout cas j'espère, parce qu'on est malade ou il y a un virus qui est passé par là. Voilà, je pense qu'on a les moyens, la France a les moyens de faire ce qu'il faut pour préserver...
Amandine ?
Oui, moi je voulais rajouter, je veux dire, c'est vrai que ça fait des années quand même qu'on abat des troupeaux par rapport à la tuberculose. Hein. Il y a eu des arrêtés qui ont été posés pour des abattages totaux, je crois que c'est en 2001, il me semble, pour la mise en place d'un abattage total pour seulement un ou deux bovins réagissant dans un troupeau. Hein. Donc je pense que non, hein, comme disait Virginie, il y a des moyens de soigner, ça fait les êtres humains qui sont atteints de tuberculose, ben, on les soigne. Pourquoi on ne soignerait pas les bovins ? Et puis il y a des pays qui ont mis en place la vaccination sur les bovins, comme l'Angleterre ou l'Irlande. L'Irlande du Nord a mis également la vaccination en place. Donc je ne vois pas pourquoi en France on abat systématiquement des troupeaux comme ça, parce qu'on n'abat pas que les troupeaux. Hein. On abat les éleveurs aussi derrière. C'est ça, il y a des conséquences derrière. Et ça va, on va vers la destruction de l'élevage, de la des petits élevages.
Radio Libre en Périgord.
Et il y a aussi, moi ce que je trouve vraiment, c'est perturbant cette idée d'abattre des animaux parce qu'on considère qu'ils sont malades, mais on va quand même les vendre pour la viande. Et on va les vendre le même prix. Et on va y venir après la pause musicale. Ça m'a quand même un peu choqué. Respire de Mickey 3D.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupable. À moitié défroqué, 100% misérable. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
RFI,
RLP avec trois invités, donc Serge, Amandine et Virginie. On est autour du problème de la tuberculose et de l'abattage de, on peut le dire, sauvages d'animaux. On va aller un petit peu plus loin sur la norme. Pour vous, il y a des normes qui sont mises par l'Europe. Donc, qu'est-ce que c'est que ces normes-là? En quoi elles sont contraignantes?
Mais par rapport à la campagne de prophylaxie ou
ouais, l'entièreté.
Parce qu'en fait, la campagne de prophylaxie, donc on cherche la tuberculose, on cherche d'autres maladies, la leucose, l'IBR, la brucellose.
C'est
d'autres maladies que les bovins peuvent avoir, qui sont un peu plus dangereuses et qui sont transmissibles à l'homme. C'est pour ça qu'on recherche ces maladies-là. Mais après, ça se complique, c'est quand vous avez un animal positif et que vous rentrez dans le protocole de tuberculose, que là, ça se complique vraiment.
Explique-nous alors, c'est quoi les...
Alors, à partir du moment où vous avez un cas positif, donc vous avez affaire au service vétérinaire, et là, c'est pas une partie de plaisir, à vrai dire, hein, parce que c'est très compliqué. Vous avez donc des appels systématiques des services vétérinaires vous disant qu'il faut absolument éliminer les bovins déjà positifs, et puis après les animaux qui sont douteux, puisqu'il y a des animaux qui peuvent être douteux. Et donc voilà, et si vous vous opposez à l'abattage de ces animaux-là, c'est très très compliqué.
RLP,
Radio Libre en Périgord.
Et alors du coup, là, vous avez créé une VAD pour le cas de Serge. Donc VAD, ça veut dire...
Vache à défendre. Et c'est vrai que c'est pas de l'initiative, qu'on tient à le signaler de la part de Serge. C'est un collectif à part qui s'est monté, parce que quand nous avons été informés que des gendarmes sont venus du jour au lendemain chez Serge, qu'il faut le dire, il faut bien prendre conscience. Beaucoup d'agriculteurs font leur métier de manière très humble, dans leur coin, pour nous nourrir correctement, et qu'on puisse garder une bonne santé. Ils sont souvent seuls et isolés dans leur ferme. Serge est seul sur sa ferme. Quand on a su que... un certain nombre de gendarmes sont arrivés du jour au lendemain sans le prévenir pour capturer ces vaches qui étaient dans les prés, puisque de toute façon il n'avait pas été au courant ce jour-là.
Tu n'avais pas été prévenu de leur venue?
Non.
Même pas un petit coup de fil comme un bon rendez-vous?
Non, c'était programmé, mais comme je résistais, je leur ai demandé, je leur ai supplié de ne pas m'enlever mes vaches, que c'était une génétique ancestrale que ma mère a passé tant d'années à faire évoluer, et je leur ai dit, vous ne me détruirez pas ma génétique.
D'ailleurs comme génétique?
C'est une race de limousine, c'est des vaches limousines, mais qui sont rustiques, résistantes aux maladies, elles veulent toutes seules, elles sont en plein air, elles ont vraiment, elles sont immunisées sur beaucoup de maladies. Je vois très peu le vétérinaire pour soigner mes vaches, quoi.
Mais tu avais été prévenu qu'ils allaient venir. Mais toi, tu leur avais fait un frein, en fait. Tu leur as dit non. Je t'avais prévenu quand même. Ils ne sont pas venus
Des voyous. Ils m'avaient prévenu qu'ils allaient retirer mes vaches.
Mais ils n'avaient pas donné
le jour. Pas le jour même.
D'accord.
En fait, moi, ce n'est pas difficile. Il y a une ordonnance qui a été prise par le juge des détentions et des libertés. Pour permettre à l'administration de venir, de pénétrer sur ma ferme dans le but d'enlever mes vaches.
Ouais, comme un dealer, ils viennent chercher la cam. D'accord.
Voilà, tout à fait. Et là, c'est quand même le juge des libertés et des détentions qui prend cette ordonnance à la demande de la préfecture. Et ça s'est répété trois fois sur ma ferme, quand même. C'est très grave parce qu'en fait, je suis persécuté. Parce que trois ordonnances sur une petite ferme comme ça, à trois moments différents, sur une personne isolée, seule,
Explique-nous rapidement, quand ils sont venus, qu'est-ce qui s'est passé? Juste que les auditeurs et les auditrices...
Oui, alors ça va être...
Imaginons que chaque auditeur, chaque auditrice est un éleveur en puissance. Qu'est-ce qu'il peut vivre si un de ces animaux ont une maladie?
Voilà, donc un beau matin, y a toute l'artillerie qui débarque chez vous.
Combien de personnes?
Des dizaines de personnes.
Ah, et que des gendarmes?
Oui, il y avait alors la
que
première...
Que du bleu, ça se confond avec le ciel presque.
Il y avait 30 gendarmes la première fois, avec pas loin d'une dizaine de personnes des services sanitaires. Il y avait le sous-préfet, il y avait le maire. Et
il y avait un hameau, quoi. Ils se sont déplacés en,
ouais,
eux-mêmes en troupeau.
Voilà. Ils ont cerné la ferme pour pas qu'il y ait d'intrus qui fassent barrage, qui fassent barrage à l'enlèvement de mes bêtes. Il y avait les maquignons, évidemment, avec plusieurs tracteurs, des barrières, des couloirs de contention.
Les maquignons, il faut expliquer que c'est ceux qui achètent les vaches.
Oui. Je pense que les gens comprennent parce que c'est pas péjoratif, mais c'est.
Non.
C'est le nom de, qu'on peut attribué à un marchand de bêtes, voilà. Et du coup, voilà, donc la première fois, il y avait toute cette artillerie qui avait débarqué chez moi.
Pour combien de vaches? Une cinquantaine de personnes, pour combien de vaches à prendre?
Il y avait donc 27 bêtes à prendre. Non, à l'époque, il y en avait moins, puisqu'il y avait des naissances entre-temps. Donc, il restait 19 bêtes. Grosso modo. Et du coup, ils ont passé toute une grande partie de la journée pour ne rien faire, puisqu'ils n'ont pas pu prendre une seule vache. Mes vaches n'ont pas voulu se laisser attraper.
Ah, c'est donc, même pas les gens de la VAD qui ont été le premier frein, c'est les vaches elles-mêmes.
Là, à ce moment-là.
Encore là. Voilà. La VAD n'était pas encore créée, puisqu'on n'avait pas été mis au courant, on ne savait pas comment ça se passait.
Alors, de votre point de vue, pourquoi il y avait autant de monde alors si la VAD, s'il n'y avait pas eu d'alerte d'un groupe qui contre. Enfin, parce que les gendarmes, souvent, ils viennent en grand nombre.
Il y avait quand même des sympathisants qui venaient voir comment ça se passait. Enfin, qui venaient justement me soutenir, plutôt.
Mais toi, est-ce que tu avais menacé de faire quelque chose, de prendre le
non,
fusil
du tout. Non.
D'accord.
Sauf que, vu que je ne cautionnais pas l'enlèvement de mes bêtes, je ne leur ai pas donné main forte. Donc, ils ont dû se débrouiller tant bien que mal. Je leur ai dit clairement que je n'allais pas leur aider à enlever mes vaches, puisque vous me les enlevez de force, je ne vois pas pourquoi je vous aiderais en plus.
Ouais, je ne vais pas me moquer d'eux, parce que je pense que de temps en temps, on a besoin des services de l'État. Mais quand même, si à 50, ils n'arrivent pas à embarquer 30 vaches, on comprend pourquoi ils n'arrivent pas à éradiquer les fours dans les cités.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gendarmes étaient là, étaient là juste pour bloquer les issues. Ça, c'était leur travail. Eux, ils n'étaient pas du tout au niveau des vaches.
Tout à fait.
Il y avait les maquignons et 3-4 personnes des services vétérinaires, la première fois, au mois de mai ou début juin. Donc c'est là, après coup, où on a monté la VAD, parce qu'on s'est dit c'est pas possible. Un agriculteur tout seul, qui travaille avec la nature, avec ses vaches, on veut lui capturer de manière violente. Enfin, moi, je n'ai pas compris. Donc là, on a décidé de monter cette VAD, c'est-à-dire de s'installer sur place pour pouvoir faire face la prochaine fois qu'il viendrait. On ne voulait pas laisser Serge tout seul vivre ça, cette agression, d'arriver chez lui comme ça. Et donc, ils sont revenus le 5 juin avec 50 gendarmes au bord des routes. Dès le matin, ils étaient dans les fossés. Ils bloquaient toutes les issues. Heureusement, il y avait les sympathisants qui étaient à l'intérieur, à la VAD.
Il y avait des snipers ou pas?
Il y avait deux drones. Il y avait des maîtres chiens. Il y avait 7 ou 8 personnes des services vétérinaires. Il y avait le sous-préfet, il y avait le maire d'Ezrac.
Et du coup, alors, juste une petite question. Serge Escobar, vu qu'on peut t'appeler comme ça maintenant, comment toi, tu as vécu la présence des gendarmes? J'imagine que c'était douloureux pour toi parce qu'ils venaient chercher les vaches, mais la quantité de personnes qu'il y a eu, toi, comment t'as accueilli la situation? Tu t'es énervé peut-être? T'as eu peut-être des mots un peu virulents?
Du tout. Tout d'abord, ça me touche énormément que tu me dises que tu m'appelles Serge Escobar, parce que là, ça m'est venu aux oreilles.
Des drones et tout ça.
C'est étonnant parce que j'ai un ami, un ami qui s'est créé le temps de la VAD, qui me nomme Serge Escobar. Ça me touche. Enfin, donc, toujours est-il qu'effectivement, ils sont venus parce qu'il y avait une organisation d'une VAD qui s'était installée dans mon terrain. Et donc, là, ils ont décidé d'employer la méthode lourde pour au cas où ça dégénérerait.
Voilà. Là-dessus, on peut quand même leur accorder le fait que quand il y a une VAD, une ZAD ou un groupe comme ça, en général, leur tâche n'est pas facile.
Tout à fait.
Sans donner raison ou tort sur leur présence. Hein. Mais quand ils doivent gérer une situation où il y a quand même une population qui se met, qui se manifeste contre...
C'est ça.
Pour eux, je pense que c'est normal qu'ils utilisent les grands moyens.
Ouais, peu importe. Mais de toute manière, les moyens qui ont été mis en œuvre, ça a été très néfaste pour les animaux, pour mes vaches, puisque depuis, mes vaches sont restées apeurées. Et surtout les drones, et puis les gens qui... Même pas les gens de la VAD, puisqu'ils sont juste là pour empêcher la prise des vaches. Mais surtout les marchands de bêtes, et puis voilà, tout ce qui a été déployé pour attraper les vaches, ça les a rendus apeurés, et au point où, par la suite, j'ai eu du mal à les contenir.
Ouais. Ils ont quand même cassé des clôtures, elles sont courues partout, enfin toute la journée.
Hein.
Ils sont
arrivés
à 6h du matin.
Ouais.
Serge a vu des drones au-dessus de sa fenêtre quand il dormait à 5h40 du matin. Il m'en parle, il en est traumatisé. Ouais. Ils sont revenus, parce qu'il faut savoir qu'ils sont revenus une troisième fois. Mais cette deuxième fois, ils ont capturé 13 vaches. On a eu les résultats. Toutes ont été négatives.
Oui, c'est le drame de toute l'histoire, même. C'est le pourquoi je vous ai invité, d'ailleurs. C'est qu'au final, y a des vaches qui n'étaient pas positives à la tuberculose ou à d'autres maladies. Mais elles ont quand même été abattues. Elles ont été abattues, je le dis bien pour les auditeurs et les auditrices, elles ont été abattues et achetées
et mangées
à un prix qui était bien moindre que si elles avaient été vendues, arrivées à terme pour qu'elles soient vendues. Elles ont été achetées combien? 20%, 30%, la moitié du prix?
Alors, les cours ont vachement augmenté depuis la première vague. Les premières qui ont été achetées en novembre 2024, c'était de l'ordre de 1,50€ à 2,50€.
Le kilo?
Oui, le kilo. D'accord. De carcasse. Au mois de juin, c'est monté jusqu'à 4,50€ pour deux bêtes. Et là, j'attends le montant des dernières qui sont parties le 10 juillet, là. Donc, voilà. Mais c'est... Effectivement, les vaches sont payées au rabais. Et après, vu qu'elles ont été estimées, dès le départ du protocole, à un montant défini entre les parties...
Mais pour le consommateur ou la consommatrice, c'est bien, parce qu'il va payer moins cher, en fait, la viande.
Ah, pas du tout.
Mais non.
Puisqu'en fait...
Et le couac arrive tranquillement.
C'est ça. Donc voilà, c'est l'État, donc le contribuable, qui compense le manque à gagner de l'éleveur sur le montant que le marchand lui a donné, quoi.
Ouais. Tu voulais dire quelque chose, Amandine ?
Non, tout à l'heure, c'était juste par rapport à la gendarmerie. Enfin, nous, on y avait été la première fois chez Serge, et on avait eu beaucoup de mal à passer, hein, 4 barrages de gendarmerie, mais on avait vu des gendarmes jusqu'au Lidl, là-bas. Toutes les routes étaient complètement fermées. Moi, on avait trouvé ça très aberrant par rapport à un pauvre éleveur qui essayait de sauver ses vaches, quoi. Donc, moi, j'ai trouvé le dispositif vraiment disproportionné, quoi. Et là, par rapport au prix, oui, effectivement. Moi, j'ai eu le chèque du Maquignon. Enfin, voilà, j'ai des veaux sous la mer payés 1 € le kilo et des vaches payées entre 2,50 et 4,5 €, quoi, grand maximum.
Et quand on a préparé l'émission, vous m'avez expliqué qu'en fait, il y avait un système qui était mis autour de ça, qui était mis en place, qui était bien rodé, lui, bien huilé. Mmh. En gros, quand une vache est ciblée comme étant malade, il y a tout un tas d'activités qui viennent. Qui viennent regarder, qui viennent ou profiter, ou comme les maquignons, est-ce que tu peux expliquer, ou vous pouvez expliquer rapidement ce qui se passe quand une vache est ciblée? C'est quoi cette histoire de personnes qui viennent autour?
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est déclaré foyer tube, c'est vrai qu'on peut avoir pas mal de maquignons qui viennent à la porte, hein, en disant oui, mais parce qu'ils savent qu'ils auront de la viande pas chère, quoi.
Ouais.
Ils auront de la viande pas chère, même s'il y a l'indemnité de l'État qui compte.
Comment ils sont au courant de ça?
Ça, parfois, on se pose des questions. Parce que moi, j'ai eu des maquignons qui ont toqué à ma porte, ça s'était pas dit, j'avais pas encore fait publier, donc personne n'était au courant les vidéos.
Il y a un endroit où l'information, elle est inscrite à un moment?
Moi, après, quand j'ai commencé à faire des des vidéos sur Facebook ou sur YouTube, oui, effectivement, les gens étaient au courant que j'avais un troupeau, voilà. Mais sinon, avant, les gens n'étaient pas censés savoir. Et j'ai eu des maquignons qui sont toqués à ma porte en me disant...
Et comment
voilà,
ils sont au courant?
Et comment ils ont su? Ben, je ne sais pas.
D'accord, là, parce qu'il n'y a pas, une fois que c'est déclaré bête positive, ça ne va pas sur un site... Non. Et les maquignons peuvent aller prendre cette information?
Non, non, normalement, il n'y a que les services vétérinaires et la préfecture qui sont au courant à la base. Hein.
Donc, en gros, le lien se fait entre maquignons, services vétérinaires, préfecture. Est-ce qu'il y a d'autres interlocuteurs dans l'histoire? Avec, bien sûr, l'éleveur.
Et après, il y a les cliniques vétérinaires aussi, parce que les cliniques vétérinaires sont au courant aussi.
D'accord.
Mais voilà.
Après, il y a une entreprise qui s'appelle Charal. RLP. Il y a les maquignons, donc, qui sont les premiers, qui sont en contact avec l'agriculteur. Les vaches sont volées, en l'occurrence à Serge et Amandine, amenées dans la bétaillère. Après, le maquignon va pouvoir négocier, du coup, au boucher, à Charal, et après, vous, consommateurs, consommatrices, vous allez acheter l'animal que vous allez manger. Et c'est là que tout se joue.
Ouais. Je vais revenir, on va avancer un petit peu sur l'émission, sur les protocoles. Tu disais, Virginie, quand on a préparé l'émission, j'aimerais que tu développes un peu l'idée, on ne l'avait pas beaucoup approfondi, tu disais que les protocoles, en fait, ils incitent à la corruption. De quelle manière? Pourquoi tu dis ça et de quelle manière ça incite à la corruption?
Dans le sens de, tu veux dire, oui, ce qu'on disait, c'est ce qu'on vient d'expliquer quelque part. C'est les agriculteurs qui font leur travail correctement... sont sous la coupe, et qui respectent les protocoles, qui font les analyses, les tests, etc. Après, voilà, quand il y a ces quotas qui sont décidés de plus haut, qui disent, voilà, faut pas qu'on ait de tuberculose, qu'on soit indemne de tuberculose, après, le maquignon arrive, comme dit Amandine, il n'était pas censé le savoir, j'ai des maquignons qui sont arrivés que je ne connaissais même pas. Savent qu'ils vont gagner de l'argent là-dessus, ils vont le revendre après, voilà. Et d'ailleurs, on a des échos, on ne va pas citer les noms, mais qui disent, ces maquignons-là, le protocole de gestion de la tuberculose bovine, c'est un business pour nous.
Ouais.
C'est là où ça peut entraîner quelque chose de pas sain. Ça, c'est sûr.
C'est dommage, mince. J'aurais dû inviter un maquignon pour qu'il nous explique comment il a l'information, parce que ça m'intéresse. En fait, le système de corruption, il est là-dedans. Il est dans le fait que, sitôt qu'il y a un endroit où c'est signalé qu'il y a des bêtes positives, on se met d'accord, se met d'accord pour pouvoir profiter. Oui, Serge.
Alors, donc, au départ, quand il y a une expertise... mise en place donc du cheptel, sur le montant du cheptel, par des services, des experts agriculteurs, des experts spécialisés et les services sanitaires, services de l'État. Ensuite, ils nous demandent donc de prendre en tâche à notre marchand de bétail pour enlever les bêtes. Normalement, on doit les contacter pour qu'ils enlèvent les bêtes quand bon leur semble. Pour ma part, j'avais un marchand, c'était Monsieur Durand, et du coup, c'était lui qui était censé de me prendre les bêtes. Pour les premières bêtes, c'était notre, c'était Bétail 24. Bétail 24, ils ont pris les deux bêtes abattues en diagnostic. Ces deux bêtes, malheureusement, elles sont parties à l'écarissage parce qu'elles ont été saisies totales pour une infiltration séreuse du tissu conjonctif. Et donc, ils n'ont rien gagné dessus, mais ils ont fait l'intervention. Et par la suite, ils ont dit, nous, on ne veut pas cautionner ce système. Donc, ils ne sont pas revenus sur ma ferme m'enlever les vaches. Donc, c'est Durand qui a pris la relève. Et eux, par contre, ils trouvaient à y gagner. Voilà. Donc, sauf que je ne leur ai pas aidé. Et voilà, ils sont venus donc par un commandement des services sanitaires. Voilà.
Radio Libre en Périgord.
On va faire une petite pause. Une autre petite pause. Si vous avez besoin de boire, d'aller aux toilettes. On va écouter un petit morceau de Clara Luciani. Toujours respire.
Elle respire le temps. lenteur des corps qui dansent autour d'elle dans l'obscurité. Il s'effleure sans timidité, une insolence chorégraphiée.
Avec nos trois invités,
où on parle Radio Libre en Périgord.
D'une affaire qui est arrivée à Serge sur sa ferme, mais qui concerne beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices, notamment Amandine qui a eu le même cas de figure. Oui. L'Europe, quel poids a l'Europe sur vos petites structures?
Alors, apparemment, ils veulent faire des méga fermes sur notre territoire et je pense qu'on veut détruire déjà les petites exploitations.
Qu'est-ce qui te fait penser ça? Est-ce que tu as des...
Oui, déjà, surtout le bio. La bio, elle est dans le collimateur puisque déjà on a perdu nos aides au maintien de l'agriculture biologique, de la PAC, qu'on nous a retiré début 2025. Voilà, on veut détruire donc les petites exploitations.
D'accord.
Mais même des moyennes, puisqu'apparemment...
Il n'y a pas de circulaire.
Oui, sur une circulaire des amis de la CONF ou de la CONF en elle-même. Veut-on la peau des agriculteurs bio? Voilà, ouais. J'ai vu passer ça.
D'accord.
Là, tout récemment.
Mais au niveau de l'Europe, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de circulaire qui dirait que le bio est à surveiller en particulier parce que ça pose des problèmes.
On est mal informé, on n'est pas. Mais d'accord. Certainement qu'il y a quelque chose qui existe.
Mais ce que toi tu viens de dire là sur on veut enlever ces petites fermes machin, c'est plus un ressenti en fait que quelque chose qui est établi.
Oui.
Oui, c'est... Je dis ça pour, parce que si on avait une référence au niveau de l'Europe à aller voir et qu'on pourrait donner aux auditeurs, aux auditrices, ça permettrait d'appuyer un peu...
On peut revenir sur ce quota. Quand ils disent la France doit être indemne de tuberculose bovine, qu'on tape sur certains départements et qu'on quelque part, qu'on applique ces, que l'État applique ces abattages totaux, aller demander au fils ou à la fille de l'agriculteur qui a subi ces abattages totaux si elle veut reprendre la ferme. Ben non, ce sont des fermes qui meurent. Et du coup, derrière, c'est quoi ? Ce sont des salariés, par exemple, de la Sobéval, qui proposent aux agriculteurs de construire des fermes-usines. Vous avez dans notre territoire, en Dordogne, quasiment maintenant dans chaque commune, des fermes-usines où vous avez 200, 500, 800 veaux qui sont enfermés pendant 6 mois, 6 veaux dans 10 mètres carrés, qui ne vont pas bouger, qui vont être engraissés. D'accord. Et tués dans l'abattoir à Boulazac de la Sobéval.
Ok, c'est mais il n'y a pas une volonté claire avec des textes qui encadrent en fait la déstructuration des petites structures. C'est plutôt des conséquences.
Conséquences sournoises.
Depuis 2001, la France a un statut indemne de tuberculose. Donc on continue, c'est ce qu'on disait, on abat continuellement des bovins juste pour garder le statut indemne par rapport à l'Europe, par rapport pour permettre les échanges avec les autres pays de l'Union européenne.
Mais ça ne veut pas dire que l'Europe a la volonté de détruire les petites structures. C'est, l'Europe a la volonté d'alimenter tout le monde et dans cette volonté-là, il y a peut-être des maladresses qui se mettent en place.
Alors, moi, le truc...
Pour vous, c'est des volontés.
Non, je pense que c'est une volonté, parce qu'en fait, même sur les abattages, on part du principe, on dit qu'il y a deux formes d'abattage. Donc, il y a l'abattage total en cas de tuberculose et l'abattage sélectif. Mais l'abattage sélectif, il faut avoir moins de 2 bovins positifs pour 60 bêtes. Donc, si vous touchez un troupeau qui a 60 bêtes, forcément, il va passer sur un abattage total, tandis que la personne a 120 bêtes ou 200 bêtes, il va passer sur un abattage sélectif. Donc, c'est vrai que c'est difficile de... Rien que l'abattage sélectif montre que de toute façon, on veut détruire les petites fermes. On veut détruire les petites fermes. C'est statistique. Plus vous avez de bovins, moins vous avez la probabilité de passer sur un abattage total.
Qu'est-ce qu'elles vont nous amener, ces grandes fermes-usines, plutôt que des petites structures ?
Je pense qu'après, ils peuvent faire comme à Limoges. Là, ils avaient prévu de faire une ferme de 2000 bovins, etc. Je pense que leur objectif, au bout, c'est de faire naisseurs et engraisseurs, ne plus avoir de faire d'aller-retour dans les fermes pour aller récupérer les animaux. C'est tout au même endroit.
De réduire les coûts.
Réduire les coûts, déjà, au niveau du transport, etc. La multitude de petites fermes, aller chercher 2 veaux dans une ferme à droite, 2 veaux à gauche, je pense que, au niveau des coûts, je pense que pour eux, c'est plus rentable.
Hein. Pour me faire encore l'avocat du diable, s'il y a la tuberculose dans une ferme-usine,
ah oui, mais ça...
Mais vous voyez, s'ils abattent pour des petites structures...
Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les fermes-usines, ils ont leurs propres techniciens et leurs propres vétérinaires.
C'est ça.
Alors, quelle solution on aurait, en fait, pour contrer la broyeuse ? Parce qu'à partir du moment où tu as fait les tests, il y a toute une broyeuse qui se met en place. Là, tu as commencé à dire que sur les fermes-usines, ils avaient des vétérinaires en interne. Parce que c'est toujours bien de pointer, de jeter le pavé dans la mare, mais comment on fait en fait pour en sortir ?
Peut-être on pourrait essayer la vaccination, peut-être déjà on pourrait essayer de soigner ces bovins, puisque les humains, on les soigne bien de tuberculose, pourquoi on ne soignerait pas les bovins ? Tester, isoler ces animaux-là, les mettre en quarantaine et créer de nouveaux protocoles.
Parce qu'il n'y a pas de quarantaine de mise en place.
Mais pas du tout, en fait.
D'accord. Serge, tu voulais prendre la parole.
Oui, donc il suffit de retirer la bête qui serait impacté et soigner éventuellement les autres, mais faire du cas par cas.
En fait, la norme, elle ne s'adapte pas au cas par cas. La norme, elle est faite pour quelque chose de général, de global.
C'est ça.
Mais sur des cas un peu isolés, ça ne s'adapte pas du tout, la norme. C'est ça, le problème ?
Oui, tout à fait. Et même dans l'élevage, les règles ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas d'équité sur tous les élevages.
Et qui vous empêche à vous d'avoir des vétérinaires à votre solde ? Oui, je peux le dire comme ça. Serait à votre service, qui vous accompagnerait. Est-ce que vous comprenez déjà tout ce qu'il y a dans les... Quand il y a une analyse, vous recevez le papier avec l'analyse. Est-ce que c'est facile à comprendre ce qu'il y a dessus ?
Voilà. Donc là, il manque de la transparence, de la véracité des analyses et du suivi, de l'accompagnement.
Mais
et
vous surtout... avez bien quelqu'un qui vous explique quand même ce qu'il y a dessus, non ?
Oui, mais c'est incompréhensible, même en nous expliquant. Et là, de plus, il n'y a même pas de contradictoire. Ça veut dire que ceux qui font les tests sont jugés partis.
Et vous, alors, qu'est-ce qui vous empêcherait d'avoir un vétérinaire. Tu parlais des vétérinaires en interne.
Ben justement, quand on a voulu savoir les résultats, faire des analyses au niveau des vaches, est-ce qu'elles avaient vraiment la tuberculose bovine, on a demandé des vétérinaires. On a parlé avec eux. Personne n'a voulu être à nos côtés. Donc c'est là où on se dit, ah, ils ont peur, qu'est-ce qu'il y a derrière ?
Il n'y a aucun vétérinaire
Pourquoi
qui a
les
voulu...
vétérinaires, quand on avait enfin les analyses, après malheureusement que les 13 premières avaient été tuées, personne n'a voulu être avec nous devant les médias, dire maintenant regardez les analyses, je vais vous expliquer, elles sont indemnes. Mais personne n'a voulu expliquer. Personne
n'a
voulu.
Est-ce que c'est parce qu'ils veulent être tranquilles ou est-ce qu'ils ont la crainte d'un retour vu qu'ils sont à la retraite ou qu'ils sont à l'écart du système ?
Mais on ne sait pas, on se pose des questions.
D'accord.
Nous, en tant qu'éleveurs, on se pose beaucoup de questions.
Ils avaient peur des répercussions s'ils parlaient. Mmh. En tout cas, ils nous ont dit ça.
Ah, et c'est ce qu'ils ont exprimé. Et qui, de votre point de vue, qui devrait les faire, les normes ? Parce que là, l'Europe, qui les fait au niveau de l'Europe, les normes ?
Ah,
Là, c'est une bonne question, hein, mais je pense que... Ça vient des laboratoires, voilà.
Hein. Ben, l'ANSES, c'est l'ANSES qui détient tout le pouvoir de...
C'est quoi l'ANSES ?
C'est l'Agence nationale...
De la santé...
Santé...
D'accord.
Voilà, à Maison Alfort.
Une agence de santé, d'accord. Et qui devrait les faire, les normes ? Est-ce que c'est les agriculteurs eux-mêmes ? Mais est-ce qu'ils ils deviendraient pas eux-mêmes juges et parties ? S'ils faisaient les normes, qui devrait les faire ?
Ah non, les normes doivent être comme tout, doivent être faites avec plusieurs acteurs.
Ces acteurs ?
La filière éleveur, la filière sanitaire, filière...
Ok. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des représentants du politique aussi ?
Évidemment, oui. Tous les représentants nécessaires à faire une bonne...
Non, peut-être, on pense, nous, peut-être qu'il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas que les services vétérinaires. Donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait d'autres acteurs en plus des services vétérinaires.
Ce serait qui ces autres acteurs ?
Bah, peut-être des vétérinaires indépendants, mais des gens qui voudraient nous renseigner plus que les services vétérinaires, qui sont très fermés à nous expliquer les choses en nous disant « oui, voilà, c'est positif », et puis sans nous expliquer réellement le pourquoi du comment.
J'oriente sur le poids du politique, vu qu'ils sont élus pour nous représenter. Enfin, sur le papier, c'est écrit comme ça, mais les politiques, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, eux ?
Justement, c'est ce que dit aussi Amandine. Moi-même, j'ai téléphoné au directeur des services vétérinaires, en tant qu'élue, en tant que citoyenne, bien sûr, le fait d'avoir créé une association environnementale il y a déjà presque 20 ans. Mais j'ai trouvé un mur, j'ai rencontré un mur. Même en tant qu'élue, il n'y avait pas de discussion. J'ai rencontré le sous-préfet, je me suis déplacée.
Radio Libre, en Périgord.
Un peu plus au niveau des maires. C'est ce que j'ai dit, hein, même à mon conseil municipal, il y aurait eu des maires devant les stabulations avec leur écharpe. Le jour où ils vont voler les vaches des agriculteurs, je pense que là, il y aurait peut-être eu une ouverture de discussion.
Ouais, ils n'ont peut-être pas été interpellés.
Alors nous, on avait été, donc on avait vu donc le sous-préfet de Périgueux. Lui, c'est pareil, hein, c'est vraiment difficile de discuter avec lui. Hein, ils sont un peu fermés comme les services vétérinaires. D'ailleurs, ils se positionnent bien sur l'ordre des services vétérinaires. Et nous, on avait essayé de faire intervenir, par contre, la députée Madame Lechon, la députée RN. Et c'est pareil, hein, s'est retrouvée porte fermée. Hein. Pourtant, elle a fait des courriers au ministère, elle a fait des courriers un peu partout, elle a fait des courriers au Premier ministre même.
À la députée RN,
la députée Madame Lechon s'est impliquée dans notre dossier, nous, sur la ferme, etc. Depuis le début, nous, on l'a contactée depuis le début.
Est-ce qu'il y a d'autres camps politiques que le RN qui s'est impliqué ?
Oui, nous, on a eu les Patriotes. Une référente des Patriotes qui nous a aidé à faire des vidéos.
C'est pas un autre camp politique.
Mais voilà, le conseiller régional,
Peitavi,
oui, mais il n'était pas là à ce moment-là.
Ah, d'accord.
Ils
sont plusieurs bords.
Ils sont tous attentifs. Par
contre, s'il n'y a que le RN qui réagit.
Voilà. Par contre, les députés, les sénateurs ont tous fait remonter l'information au niveau national.
Ouais. Ouais.
Donc là, c'était clair, ils me l'ont dit, on en parle au niveau national.
Est-ce qu'on pourrait leur imposer de faire quelque chose aux élus ? Vous savez qu'il y a un système de pétition. On le voit en ce moment, sur certains votes qui se passent à l'Assemblée nationale. Il y a un système de pétition. Au-delà d'un certain nombre de gens qui ont signé, on peut demander à ce que soit discuté à l'Assemblée nationale et imposer le sujet.
Bah justement, moi, j'y pense, oui. J'y pense à faire une pétition sur le site de l'Assemblée nationale.
Est-ce que ça, on ne pourrait pas demander aux élus de la mettre en place ?
Tout à fait.
Et on va glisser tout doucement vers ça, parce qu'on dit à chaque fois que il y a des taux de suicide élevés chez les éleveurs, il y a des... Voilà, ça va mal dans le monde agricole. Vous, la broyeuse, comment toi, tu pourrais l'exprimer ? On va finir l'émission avec ça. Alors, ça peut être un peu dur pour les auditeurs et les auditrices d'entendre ce qui va être dit, mais il y a vraiment des cas de figure qui sont dramatiques.
Oui. Et effectivement, si j'ai résisté à passer à l'acte, c'est parce que je vois quand même le bout du tunnel, je vois la vie sereine, mais le mal est intense et je suis pas sûr que dans les années à venir, je contracte pas une maladie perverse, parce que c'est très dur à supporter, d'autant plus qu'on est souillé, on est jeté en pâture. Le seul accompagnement, c'est la MSA, les services sociaux de la MSA. Mais c'est tout. Mais personne ne peut soutenir moralement un éleveur à qui on a enlevé toute son activité, on a arraché ses tripes, en fait. C'est terrible. Il n'y a pas de mots pour décrire le vécu d'un éleveur concerné par ces protocoles.
Okay.
Une fois qu'ils ont enlevé les vaches, on nous a salis. Ils sont partis sans se retourner en laissant derrière eux un désastre.
Ouais, c'est une perquisition, quoi.
Ouais, c'est terrible.
D'accord. Est-ce que...
moi je suis d'accord avec Serge. Hein. C'est un traumatisme pour tous les éleveurs. Voilà, nous, il faut savoir que les éleveurs, on n'accepte pas. Hein. On n'accepte pas, aucun éleveur quasiment n'accepte de faire partir ses vaches. Voir le chargement de ces animaux, c'est très compliqué à vivre. Et voir derrière les bâtiments vides, etc., le silence sur la ferme. Donc ouais, ça détruit totalement des éleveurs. Moi, il faut se reconstruire derrière, il faut reprendre des animaux. Et la reconstruction est lente. Hein. Donc voilà, hein, des vaches élevées tout au biberon, depuis bébé, elles avaient tout un nom. Donc c'est très très compliqué à vivre, très très compliqué.
De plus, on est dénigré, on est énormément dénigré, et en plus, on est humilié à douter de notre propre travail, de notre propre, façon de faire notre travail. C'est tellement pervers, et c'est très bien orchestré leur stratégie, puisque à un moment donné, on se remet en question, et c'est ça qui fait que les agriculteurs passent à l'acte de suicide, parce que il cogite, il rumine, et l'humiliation par rapport à d'autres éleveurs. Et là, quand on est là, soit on accuse le coup, on dit finalement reste zen et puis tu n'as rien à te reprocher, donc tout va bien se passer, personne ne te critiquera. C'est ce que j'ai fait, j'ai accusé le coup, j'ai dit j'ai rien à me reprocher après tout. Voilà.
D'accord. Bah, en tout cas, petit message passé aux élus que je pointe très clairement. C'est pour ça qu'elle est créée, cette émission de l'alternative, parce qu'il n'y a pas des systèmes alternatifs à mettre en place un petit peu plus intelligents qu'une norme figée, une barrière. Je tiens à remercier votre courage pour le témoignage que vous avez mis en place, et aussi Virginie qui est élue.
Je voulais dire quelque chose.
Oui, Serge.
Je souhaitais surtout faire rentrer en mémoire, il y a des éleveurs et il y a des consommateurs. Il faut que les consommateurs soit bien informé de ce qui se passe derrière avant d'avoir dans l'assiette un morceau de viande. Posez-vous ces questions et surtout dites-vous bien qu'on est tous concernés par cette problématique tuberculose.
Merci à vous d'avoir été présents sur l'émission L'Alternative. J'espère vous revoir bientôt et dans de meilleures conditions, au moins pour votre avenir professionnel. Et merci aux auditeurs et aux auditrices de nous écouter. J'espère avoir des retours via le site de RLP. Au revoir à vous. Bonne fin de journée.
Au revoir, merci beaucoup.
Au revoir. Merci de votre invitation.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
C'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. Le chant du vent ou le fracas. Des rues, des villes s'abrutissent. C'est de l'air pur à satiété, ou des poumons archi-troués. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on peut vraiment y changer? L'alternative, c'est pas malin, c'est dire oui à un désir, ou d'un seul coup se voir vieillir, c'est piétiner sa propre image, celle dont les autres vous encagent, ou faire continuer le mirage. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées.